Vous écoutez
RMC.
Les GG.
Restez donc surtout en piste, Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les avants français ressortent le grand jeu, Dwyss en tête. Dwyss, c'est le pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
Christophe Cessieux pour son C'était mieux avant et nous allons parler du Vendée Globe 96.
En cette veille de Noël 1996, la France grelotte. Depuis trois jours, le pays subit de grosses chutes de neige qui bloquent les routes, isolent les populations et gênent les préparatifs du réveillon. Mais dans son PC parisien, Philippe Janton, le patron du Vendée Globe dont on dispute la troisième édition, n'a que faire des flocons qui envahissent les trottoirs de la capitale. Non, le patron de cette course de l'extrême autour du monde sans escale et sans assistance a d'autres soucis météo en tête. Un puissant cyclone s'approche de la flotte de la course.
C'est un cyclone Ophelia sur l'Australie et qui perturbe tout le système météo du sud.
Et le sud dont parle Janton n'a rien à voir évidemment avec la Côte d'Azur ni la Provence, non. Son sud à lui, c'est celui des 40e rugissants et des 50e hurlants. Ces latitudes extrêmes qui bordent l'Antarctique et par lesquelles les marins du Vendée doivent passer pour réaliser leur tour du monde. Une zone de désolation, hostile, où les dépressions succèdent aux tempêtes et où les vagues ressemblent à des immeubles de 6 étages.
Il n'y a aucune terre pour casser les vagues, puisque les vagues font le tour du monde avec les dépressions. Et ça donne des mers gigantesques, comme on ne peut pas voir dans l'océan Atlantique ou dans l'océan Pacifique Nord, parce que là, eh bien, il y a un océan et puis les vagues sont cassées, parce qu'il y a un continent. Dans l'hémisphère sud, il n'y a pas de terre qui arrête les vagues.
Parti des Sables d'Olonne, 50 jours plus tôt, les marins du Vendée ont déjà atteint ces hautes latitudes et se préparent à réveillonner dans la fureur. Parmi eux, Raphaël Dinelli. Le jeune skipper se trouve dans le peloton de queue d'une course dont il n'est pas officiellement concurrent, n'ayant pas réussi à se qualifier. Qu'à cela ne tienne, celui que l'on surnomme le pirate a décidé malgré tout de prendre le départ à bord de son monocoque. Mais le 25 décembre, au matin, pris dans la tempête, celui-ci se retourne comme une crêpe.
C'était blanc, 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 blanc. C'est ça que j'appelle un accident. C'est vraiment, c'est mis en travers et il va tout simplement retourner comme un accident de voiture en fait. Comme quand une voiture fait un tonneau sur la route, le choc était tellement violent que le mât s'est cassé et le mât est rentré à l'intérieur de la coque. Et donc j'avais le mât qui pilonnait à l'intérieur le bateau dans la soute à vent là où je mets les voiles.
Les dégâts sont considérables. Le bateau prend l'eau de toutes parts et commence à couler. Dinelli déclenche alors sa balise de détresse, puis, trois heures plus tard, gagne le pont de son voilier qui s'est miraculeusement remis à l'endroit. Là, il s'arrime comme il le peut au pied de mât et va vivre 36 heures d'angoisse ballotté par les déferlantes d'un océan glacial. Il n'a que deux choses à faire. Attendre un hypothétique, très hypothétique sauvetage et espérer que le bateau ne coule pas trop vite.
Je suis au bout du monde, dans le plein océan Indien, pas d'hélicoptère, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de bateau, etc. Et de passer dans l'état comment faire pour survivre, alors là, j'ai eu un moment psychologique très difficile.
À l'autre bout du monde, dans son PC parisien, Philippe Janton déclenche les secours.
Je regardais quels étaient les bateaux autour de lui qui étaient dans la meilleure position pour lui porter assistance. Et le seul que j'ai pu joindre, c'était Pete Goss, qui était un petit peu en avance. Et je lui ai dit, Raphaël Dinelli est en détresse, voilà sa position, peux-tu aller le chercher?
Et Pete Goss, malgré la tempête, va respecter à la lettre le serment maritime qui veut qu'un marin se doit de tout faire pour essayer de sauver un camarade en détresse.
Le moment ne pouvait pas être plus mal choisi. J'ai noté la position pour me rendre compte que c'était un compagnon de course, Raphaël Dinelli, qui se trouvait dans le pétrin à quelques 260 km de là. Et pour couronner le tout, il était pris dans des vents qui avaient l'intensité d'un ouragan. Le vent soufflait tellement fort qu'il arrachait l'eau de la surface de la mer. Et là, je me suis dit, comment imaginer sauver Raphaël dans de telles conditions?
Face au vent et aux vagues qui dépassent les 12 mètres de haut, Goss entame sa recherche à contre-courant pendant qu'un avion de la marine australienne repère Dinelli dans une botte de vagues et lui largue un canot de survie. Celui-ci parvient à se hisser à bord avant de voir en une poignée de secondes son beau voilier rejoindre le fond de l'océan Indien. Quelques heures plus tard, Goss parvient enfin à localiser son camarade et lui sauve la vie.
Je me suis penché et j'ai agrippé à pleine main sa combinaison de survie. J'ai accroché une lanière à son harnais. Le moment était magique. Je le tenais enfin. Ça a été un moment plein d'émotions. Je n'oublierai jamais ses yeux. Tout ce que l'on distinguait vraiment de Raphaël, c'était ses yeux dans sa combinaison de survie. Et je voyais la profondeur de son émotion et toute sa gratitude. On peut lire dans l'âme de quelqu'un dans de telles circonstances.
Au PC Course, c'est l'euphorie. Dinelli est sauvé, au chaud dans le bateau de Goss, qui prend alors la direction de la Tasmanie, où il débarquera son compagnon 2 jours plus tard. Mais aux belles histoires de Noël vont bientôt succéder d'autres pages dramatiques. En cet été austral, les tempêtes ont décidé de mener la vie rude aux bateaux et skippers. Le 5 janvier, 2 dépressions se creusent simultanément dans l'Indien et le Pacifique. Le baromètre d'Isabelle Autissier va soudainement s'affoler.
On reçoit une prévision de 35 nœuds. Donc, vraiment pas plus inquiet que ça, quoi. Quand même, moi, je vais avoir la puce à l'oreille. C'est en regardant le baromètre, qui quand même se casse la figure en l'espace de quelques heures, va passer de effectivement 30 nœuds à 60. Et puis ça va continuer à monter. Moi, c'est la tempête la plus forte que j'ai jamais vécue. Moi, j'ai enregistré 87 nœuds avant que la girouette s'envole. Donc, il y a peut-être eu plus, j'en sais rien. Mais 87 nœuds, c'est ouragan, quoi. Moi, c'est la seule fois de ma vie que j'ai vraiment eu le sentiment qu'il n'y avait plus rien à faire.
À l'arrière de la flotte, c'est la panique. Thierry Dubois et Tony Bullimore, séparés d'à peine quelques milles, sentent le mauvais coup arriver.
L'état de la mer, on ne l'avait pas prévu. On ne sait toujours pas pourquoi elle était aussi énorme que ça. Hauteur moyenne mesurée 12 à 13 mètres. Donc les spécialistes vont dire que oui, ça génère des vagues de plus de 20 mètres. Donc oui, je voyais bien qu'elles étaient grosses.
Au loin, j'ai remarqué une ligne noire qui s'étirait sur des kilomètres et des kilomètres. C'était vraiment le signe annonciateur du gonflement de la mer. Cette ligne noire à l'horizon me disait que quelque chose se dirigeait vers moi.
Quelques heures plus tard, les balises des 2 navigateurs s'allument coup sur coup. À terre, l'inquiétude gagne les familles et le 20h de France 2 ouvre sur le double naufrage.
Madame, Monsieur, bonsoir. C'est toujours l'inquiétude à propos des 2 navigateurs de la course à la voile, le Vendée Globe, dont les bateaux ont chaviré au milieu d'une violente tempête dans l'océan Indien au large de l'Australie. Pour l'heure, les 2 embarcations ont été repérées par l'aviation australienne. Le concurrent français Thierry Dubois a même réussi à prendre place dans une embarcation de survie larguée de l'avion de recherche. En revanche, aucune trace de vie sur ou autour du bateau du Britannique Tony Bullimore.
Le bateau retourné de Bullimore ne donne aucun signe de vie. Le navigateur britannique est-il réfugié à l'intérieur de la coque ? Pour l'heure, rien ne l'indique. Quant à Thierry Dubois, s'il a pu se hisser à bord d'un canot largué par l'avion australien, il va connaître un nouveau coup dur.
Je me fais prendre dans une déferlante et terminé. Radeau explosé. J'ai passé plus d'une heure dans l'eau, sans radeau, sans bateau. Quand tu fais de la natation là, statistiquement, tu ne dois pas t'en sortir. Il faut être réaliste. Tu es au milieu de l'océan et tu es à la nage. Après, j'avais rien. J'avais encore ma balise de détresse avec moi, mais ça me faisait une belle jambe.
Mais par miracle, un second avion passe au-dessus du bois et lui largue un autre radeau. Il n'a désormais plus qu'à attendre les secours. Une longue, très longue attente dans le froid et l'humidité.
Après, j'ai passé 3 jours dans le radeau de survie, à attendre qu'on vienne me chercher. Tu m'emberges, tu vides tes copes, t'éponges, et t'essayes de pas trop froidir. S'il fait froid, il neigeait juste avant le chavir. Et l'eau, elle est à 2-3 degrés.
3 jours plus tard, après 2500 km de navigation, la frégate australienne Adélaïde parvient enfin sur zone, embarque Dubois à son bord avant de se diriger vers la coque retournée d'Exit Challenger, le bateau de Bullimore toujours silencieux, et là, un énième miracle se produit lorsqu'une tête surgit des flots.
J'ai entendu une voix venant de l'extérieur et là j'ai commencé à crier « J'arrive, j'arrive, j'arrive ». Ça m'a pris quelques secondes pour sortir du bateau. J'ai pris ma respiration, j'ai plongé et alors, quand j'ai vu le Zodiac qui était là, avec l'avion au-dessus et ces types qui me regardaient, c'était le paradis. Vraiment le paradis. C'était un miracle absolu. La vie vous semble extraordinaire dans ces moments-là. J'ai l'impression de renaître une deuxième fois.
Mais le temps des miracles va soudainement prendre fin. Un océan plus loin, une énième tempête se déchaîne et secoue d'autres marins, parmi eux le Canadien Jerry Roof, dont le bateau se trouve à quelques milles seulement de celui d'Isabelle Autissier. Les 2 marins, compagnons d'infortune, communiquent leur angoisse par mail.
Isa, c'est Jerry. Ralenti par mer énorme. y en a marre de cet endroit. Le vent ne mollit pas pour deux miettes et la mer se forme encore plus. Les vagues, c'est plus des vagues, c'est les Alpes. Sauf que le blanc en haut, c'est pas de la neige. Je viens de faire un chavirage monstre. Le bateau reste couché. Le vent, c'est l'enfer. Je ne sais pas ma position. À toi.
Puis soudain, le silence. Jerry ne répond plus. Sa balise Argos a cessé d'émettre.
Après Ginny Lee, Dubois et Bollimore, c'est Jerry Roof qui inquiète. Sans nouvelles de lui depuis 4 jours, le PC course a décidé d'envoyer les secours, même si le skipper canadien n'a déclenché aucune balise de détresse.
On a donc demandé à Isabelle Autissier de faire demi-tour et de venir rechercher dans la zone où était Jerry Roof. Elle commençait à sillonner la zone, mais c'est vrai que c'était une zone énorme.
Pendant 2 jours, j'essaye de revenir en voyant qu'il y a toujours du vent quand même assez fort, qu'il y a de la brume, que moi je vois un 1000 carrés autour de moi, donc j'ai zéro chance de le trouver. Et puis au bout de 2 jours et demi, ils me disent maintenant repartez dans le bon sens.
Vous pouvez reprendre votre route. Et encore merci pour tout.
Et Isabelle Autissier nous a envoyé un message pour nous dire « Je ne peux plus tenir la position, je suis obligé de repartir. »
Quelques jours plus tard, les derniers espoirs s'envolent lorsque l'arrêt officiel des opérations de recherche est annoncé.
Jerry ne reviendra pas et c'est le grand drame de ce Vendée Globe. Philippe Gentot a dû abdiquer. Jerry Roof a officiellement disparu en mer, englouti par le Grand Sud.
Plusieurs mois plus tard, des pêcheurs chiliens retrouveront sur une île déserte baptisée Atalaya l'épave de groupe LG2, mais sans âme qui vive à bord. Non, cette fois-ci, point de miracle, le Pacifique, mangeur de tant de marins, pêcheurs et autres coureurs des mers, a pris sa revanche et envoyé un message au monde des terriens. Pourtant, depuis cette tragique disparition, tous les 4 ans, les successeurs des Roof, Bullimore et autres Dubois continuent de venir défier les mers du Sud. Une sorte de roulette russe engagée avec la nature, mais aussi un ultime refuge pour les aventuriers de tous bords qui connaissent les règles du jeu, celles des vagues gigantesques et des tempêtes homériques. Oui, mais pour rien au monde, il ne leur viendrait à l'idée de renoncer à ce duel glaçant et glacial avec l'océan.
Merci Christophe Cessieux pour cette histoire, ces histoires sur le Vendée Globe 1996. Mais Gégé, qu'avez-vous envie de retenir à l'écoute de ce récit, Marc ?
Ça fout les jetons. C'est impressionnant. Tout à l'heure, on évoquait le fait que les jeunes s'intéressent à un sport ou à un autre. On faisait la comparaison entre le foot et le vélo, mais là c'est encore autre chose. J'ai rencontré une fois Gentot. C'est un des. Et j'ai parlé, 30-40 secondes ou une minute avec lui. Et c'est une des personnes qui m'a le plus impressionné dans ma vie.
Pourquoi ?
Parce qu'ils ne sont pas faits comme nous. Simplement. Gentot, il n'est pas fait comme nous.
Simon Dutin.
C'est des histoires qui ont contribué évidemment à rendre le Vendée Globe mythique. Il y a quand même un mysticisme autour de ces mecs et ces femmes qui partent autour du monde tout seul sur un bateau. Il faut avoir fait un peu de voile dans des conditions difficiles pour se rendre compte à quel point tu peux être saisi par... Moi, c'est en bateau, pour mon expérience personnelle, une nuit au large de Fos-sur-Mer que j'ai fait la différence entre la peur et la terreur. Et une nuit sur un bateau, j'ai expérimenté la terreur et je me suis vu y passer. Et à ce titre-là, ce que ces marins d'exception font est absolument extraordinaire, parce que tu t'imagines tout seul dans le Pacifique Sud, Pacifique est nommé comme tel par Magellan, tu sais, qui avait dit hop, c'est plutôt calme ici, d'où le nom de l'océan Pacifique, qui en fait engloutit effectivement beaucoup de marins. C'est absolument terrifiant. Pourquoi partir, comment revenir? C'est comme ça, moi, que je résume un peu la philosophie de ces hommes et ces femmes. Et effectivement, nous on est là à terre, on suit ça. C'est il y avait pas encore tout à fait les balises internet, tu sais, on pouvait pas suivre tous les équipages. Donc on était pendu au communiqué.
Il y avait une liaison qui était très mauvaise techniquement. On avait l'impression qu'ils étaient très loin, alors qu'aujourd'hui on a l'impression qu'ils sont dans le centre d'à côté.
Et effectivement, la voix de Gentot est devenue un peu mythique. Tu le revois avec sa moustache là, nous donner les derniers bulletins et bon, l'histoire de Jerry Roof, elle est absolument effectivement dramatique, mais ça fait partie. Je pense que c'est comme les alpinistes, tu sais, qui partent et qui savent que bon. y a quand même de fortes chances pour que tant qu'ils continuent, ils se mettent en danger de mort. Et c'est ça qui rend leurs exploits encore plus admirables.
Pascal Duprat.
Non, mais ça prouve déjà que Christophe est meilleur compteur, bien meilleur compteur.
Que débatteur.
Débatteur au bras de fer. Voilà, parce que encore une fois, Christophe, c'est juste incroyable cette capacité. Merci, que tu Pascal. As à nous captiver. Non, mais c'est la différence entre l'homme, on va dire, normal et ces surhommes ou surfemmes, je sais pas comment les appeler, mais ils ont un cran, une bravoure exceptionnelle. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, la sécurité s'est améliorée, parce qu'on peut mieux les situer grâce aux moyens technologiques, mais il faut quand même avoir un sacré cran pour être seul en mer là, comme ça. C'est vraiment des personnes passionnées, voilà, passionnées par leur sport, passionnées par les mers, et qui doivent certainement se sentir bien mieux que nous quand ils sont seuls face à ces éléments naturels.
Et évidemment, tous les CTMU avant sont à retrouver en podcast sur rmcsport.fr, sur les différentes applications et notamment sur l'application RMC. Merci beaucoup Christophe. Je m'empresse de te demander, la semaine prochaine, nous serons en direct de l'Alpe d'Huez au RMC Sport Game, donc il n'y aura pas de CTMU avant. Mais dans deux semaines, ça va devenir une entreprise Netflix.
Un petit feuilleton en deux épisodes, Christophe. Je vais vous raconter l'histoire du plus grand tricheur de l'histoire du sport, un certain Lance Armstrong, puisque dans quelques jours, on sera 10 ans après ses aveux, vous rappelez de ses aveux à Oprah Winfrey, à la télévision américaine. Et Lance Armstrong, qui a été le mec sans doute qui a fait rêver des générations, notamment tous ceux qui étaient malades et pour lesquels il s'est battu, puisqu'on rappelle qu'il avait été victime du cancer. Son histoire a été fabuleuse et son histoire s'est terminée comme la plus grande tricherie. Marc a bien connu le personnage, puisqu'il était dans le peloton déjà à l'époque. Et on va vous raconter toute cette histoire.
Et voilà, il n'y aura pas un épisode,
il y en aura
deux épisodes.
Voilà. Deux pour le prix d'un, incroyable.
À mon avis, dans un an, dans deux ans, si on continue, il y aura sept épisodes, ça va être absolument incroyable.